Confinement, guitare, blues, oralitude, langue maternelle, contes et mots de l'amour, aujourd'hui Dick Annegarn et Yannick Jolin.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Dick Annegarn et Yannick Jolin, bonjour, bienvenue à tous les deux. De loin, vous m'entendez?
Oui.
Alors, deux spectacles en presque tournée, hein, ça va revenir. Yannick Jolin, conteur, comédien, dramaturge, je ne sais pas comment il faut fixer tout cela. Conteur, point d'interrogation, conteur, point, c'était le titre de l'un de vos spectacles il n'y a pas si longtemps. Conteur, ça vous va? Ça contient, ça tient tout le reste, Yannick Jolin?
Alors, dans le fond, oui. Dans la forme, non. Dans le fond, oui, parce que je pense que le conte a toujours été là depuis le début de l'humanité. C'est ce qui sert à apaiser nos angoisses, les monstres qui nous peuplent depuis toujours. Et en même temps, le mot conteur a tellement subi d'avanie, il est tellement symbolique de la ringardise, de quelque chose de pour les enfants, de quelque chose d'un peu suranné dans sa pratique scénique, que effectivement, formellement, c'est des fois inconfortable.
Ça voudrait dire que, à vous entendre, en tout cas vous, Yannick Jolin, ça devrait contenir quoi que ce terme de conteur?
Ça devrait contenir un outil absolument magistral d'éducation populaire. C'est un outil qui possède à la fois la puissance de la parole symbolique, à la fois le côté subversif de la parole qui parle de son temps, du monde qui nous entoure, qui cogne. C'est une parole qui est capable de tous les rebonds, la parole du conteur. Parce qu'il est en prise directe avec un public, parce qu'il n'y a pas le quatrième mur du théâtre, parce que c'est un homme devant des gens qui leur parle de leur monde et de leur monde à la fois intérieur et à la fois du monde extérieur.
Un homme au milieu donc et pas dessus. Dick Annegarn, auteur, compositeur, interprète, celui de Sacré Géranium bien sûr, mais aussi de Folk Talk, de Velova. La dernière fois qu'on a eu de vos nouvelles, hein, c'était pour 12 villes, 12 chansons, qui était un album ample, symphonique, dans le bruit de la ville. Et on vous retrouve aujourd'hui seul avec un tréma sur le O, hein, S-O tréma L, le temps d'un album pour le moins économe, hein, 10 titres à l'os, 10 titres laconiques, guitare plus voix, enregistré chez vous dans les Petites Pyrénées pendant le confinement, et c'était au printemps dernier, et ça donne ça.
Ya o dote o dalana purna o dise chant des marcheurs sherpa chant des pieds qui portent les pas au sommet. Shiva n'aurait pas voulu ça plus haut que ça, qui va au-delà de l'Oukla. Kachinzonga, chant de thé, thé de l'Himalaya, thé sacré, sacré marche celle-là, celle des pieds, celle qui pose les pas décidés. Bouddha n'aurait pas voulu ça, ni Nirvana, qui va au-delà de l'Assa. Thank you.
Hymne à l'Himalaya, c'est un extrait donc de Seul, album fait maison, s'il en est, hein, qui paraît tout juste sous le label Tôt ou tard, Dick Annegarn. Un titre, hein, celui qu'on entend là, hein, dont vous dites qu'il résume, ou qu'il résumait en tout cas assez bien, votre état d'esprit du printemps dernier, c'est-à-dire planté au sol, mais au soleil. Hein.
Ouais, et entre le sol et le soleil, il y a les Pyrénées. Et donc, les Pyrénées, c'est quand même une montagne éternelle. Et l'Himalaya, bon, c'est évidemment plus haut, c'est ailleurs. Mais on a été un peu obligé d'élever l'esprit, on va dire. Hein, je suis pas vraiment religieux, ni même un mystique. Mais bon, quand on est... De toute façon, j'ai vécu longtemps seul. Et donc, ça me permet d'être au contact avec le monde. Pas seulement par les réseaux sociaux, quoi. On réfléchit, on rêve, on s'attarde, on regarde le feu plus longtemps, puisque la télé c'est toujours la même chose, donc bon, on regarde le feu, on regarde le ciel, le jour, on apprécie la lumière. Donc oui, j'étais dans un état, on va dire, de contemplation, c'est plutôt ça, oui.
Vous qui dites vivre dans un poème, là où vous êtes, est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'il y a autour de vous, qu'on en profite, puisque nous ne sommes pas ensemble, hein. En même temps, je ne sais pas du tout où vous êtes. Hein. Si ça se trouve, vous n'êtes pas du tout là où je crois.
Alors, je suis près des Saint-Gaudens, à 40 km de la frontière espagnole. Et c'est quand je passe une petite colline, j'ai une vue de 200 km à l'est. Donc, c'est probablement les Perpignan ou vous. Enfin, je suis entre les deux mers, mais au niveau des Pyrénées. Donc, c'est marrant parce que décrire, si je vous décris aujourd'hui, même maintenant, dans une demi-heure, ça change. Ici, on a un ciel très limpide. Il y a le pic du Midi qui est un lieu d'observation des étoiles, puisque l'air et tout ici est quand même assez pur. Et donc, ma vue s'étend très loin. Et donc, voilà, les petites Pyrénées, je l'ai même vu avec une montgolfière. Je suis monté dans une montgolfière avec Danny Boone, qui du coup s'est calmé, parce qu'il est quand même assez nerveux. Et là, dans la montgolfière, oui, on voit, et même de chez moi, on voit un monde énorme, mais qui change selon les saisons, selon les lumières.
Très
exposé au changement, oui.
Selon l'heure même. Donc si l'horizon est ample, énorme, pour ce qui concerne l'album, Dick Annegarn, les 10 titres en sont courts, très courts, les 10 d'ailleurs, hein. Est-ce que faire bref pour vous, c'était faire vite ou c'était faire essentiel?
Non, mais l'Himalaya, la chanson, celle que j'ai écrite récemment, ça fait 2 ans, mais Marilyn Monroe, je suis l'arrière-petit fantôme de Marilyn Monroe. Et donc, quand j'ai commencé, j'étais belâtre, blond, jeune, et j'ai mis à peu près 30 ans à la finir, cette chanson. Je veux dire, c'est un disque, c'est un aboutissement, c'est... Je veux dire, écrire pendant cette période de confinement, il y en avait beaucoup qui écrivaient en direct, quasiment, un peu comme les rappeurs, c'est l'écriture automatique devant son selfie. Non, ici, ça a quand même été élaboré. Voilà, c'est pas un disque spontané dans son écriture. Par contre, ça a été enregistré en direct. J'ai mis une semaine pour l'enregistrer, donc après l'avoir élaboré. C'est quand même déjà placer deux micros devant une guitare, c'est beaucoup plus difficile. Le précédent album, on l'a enregistré en 2 jours avec un orchestre de 60 musiciens. J'ai enregistré là 12 villes, 12 chansons en 2 jours. Mais ici, ça a été très long pour trouver à quelques centimètres près l'emplacement des micros.
Tout seul.
En France, vous le savez, la stéréophonie de phase, c'est un art délicat et long.
Certes. Alors, je parlais davantage du temps de fabrication des chansons que de leur format. Mais puisqu'on en est au temps de la fabrication, Dick Annegarn, vous dites même que certaines des chansons qui figurent dans cet album attendaient depuis 15 ans, voire 68 ans même, hein, pour certaines, on y reviendra. Qu'est-ce que c'est que cette attente? Qu'est-ce que ça dit de ce que c'est que de terminer une chanson pour vous? Est-ce que c'est plus dur que de la commencer?
Mais... y a toujours, comment dire, il y a toujours un pignon, j'allais dire, qui est encore fragile, quoi. C'est une maison, vous disiez que je vis dans un poème chinois, mais la poésie chinoise, c'est le minimum complet. Donc, il faut enlever, il faut remplacer, et là, j'allais dire la chanson chinoise, la poésie chinoise, Puyi, Lipo, Wang Wei, ils mettaient très longtemps à ce que les poèmes soient bien imbriqués, et qu'en plus, eux, leur poésie, ils faisaient même attention à ce que graphiquement les idiomes chinois fassent un ensemble graphique harmonieux. Donc ici, c'est un peu pareil, puisque la poésie, évidemment, il n'y a pas le côté sonore, hein, même si on le lit, la langue et le fourche. Pour moi, il faut que les mots se télescopent, qu'ils se suivent, et que ça paraisse naturel. Et donc, un peu comme la montagne qui m'entoure, s'il y a un immeuble au milieu ou quelque chose qui détonne, on passe plus de temps à effacer, à remplacer, à arriver à ce minimum complet, car faire des romans, c'est plus facile d'écrire un roman que d'écrire une chanson.
Il paraît. L'album s'appelle Seul, hein, donc on peut lire seul, donc on entend aussi la solitude. Vous dites confiné, mais pas isolé, ce qui nous ramène au fond à ce qui traverse, qui travaille l'ensemble de l'album, hein, qui est un peu le blues des origines, alors de vos origines à vous, hein, parce que tout part de là pour vous, et puis le blues des origines en général, ça tombe bien, on en écoute un petit extrait.
It's too late, too late, too late, too late, too late. I'm on my way to Denver, God knows I can't hesitate. When I was on my feet, I couldn't walk down the street, women looking at me from my head to my feet. But Lord, now TB's is killing me. You know I'm like a prisoner, always wishing he's free.
La voix et la guitare qu'on entend, ce sont celles de Josh White, hein, ce bluesman des années 40, alors qui est peut-être un peu moins connu par ici, mais qui aura fait inspiration par le titre, du moins, TB Blues, le blues de la tuberculose, qui est à l'origine d'un titre qui figure dans votre album Dick Annegarn, un titre qui s'appelle Trop tard, hein, on comprend pourquoi en entendant le titre de Josh White. Le blues, le choix du blues, hein, qui tient vraiment l'ensemble de l'album, hein, c'était un choix lié au contexte, c'était un choix contraint.
Ouais, enfin, contraint, c'était un blues. Josh White était un chanteur de gospel au départ, et donc le blues, c'est un peu le gospel du pauvre, c'est quand on n'a pas la chorale qui vous accompagne. Je veux dire, c'est évidemment une souffrance quasiment christique pour ce qui est Josh White. Moi, j'ai eu, comme beaucoup de gens, un peu de déprime, un peu d'anxiété. J'ai fait 4 concerts, donc un chanteur qui se balade pas est un chanteur seul. Lui, j'avais pas vu musicien, j'avais pas le public. J'ai voulu en effet exprimer un espèce de désespoir. pendant la canicule de 2003, j'ai eu la même chose. Il n'y a pas que les vieux qui meurent, mais les Chinois disent on meurt de ne pas être touché. Et donc, en effet, de ne pas toucher au monde, j'étais beaucoup plus malade, on va dire, de l'incertitude, qui est notre lot aux artistes, hein, on est définitivement intermittent et précaire. Donc, oui, je me suis retrouvé à 68 ans, de nouveau, dans un état de demande, d'annulation, d'option, de peut-être, de... Donc, l'incertitude, oui, je me suis rasé le crâne, on le voit sur la pochette. Oui. Parce que j'avais du psoriasis que j'ai jamais fait, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui divorcent, qui dépriment, qui font du psoriasis. Oui, je me suis trouvé, comme tout le monde, en état d'incertitude et un peu malade.
Et est-ce que le choix du blues, au fond, est-ce que ça ne serait pas, puisque vous parlez d'incertitude, même d'un point de vue rythmique ou musical, est-ce que ça n'est pas justement la musique de l'incertitude ou en tout cas de l'imprévu dans sa composition même?
Ouais, c'est le blues, c'est la mélancolie quand même. Il y a de l'humour. Hein. Je dis que dans la deuxième phrase, je fais une grosse faute de français. Je mourirai bien plus tard. Je suis né bien trop tôt. Je mourirai bien plus tard. Je veux dire, à force de désespoir, on finit par en rire. Je veux dire, le bluesman, souvent, c'est une poésie érotique aussi, il y a de l'humour, c'est pas seulement une plainte sans fin, on essaye de jouer, on veut dire, avec avec nos fantômes, avec nos différentes couleurs de fantômes, on essaye de colorer, c'est pas que bleu, quoi, le blues, on patauge un peu dans une solitude qui est pas naturelle.
Vous parlez d'humour, l'humour, vous diriez que c'est un risque, hein, quand on parle de chansons.
Ah, j'avais vu Henri Salvador à la fin, comme tous les bluesman, à la fin, ils sont désespérés de chanter le désespoir, donc ils finissent par raconter des histoires. C'est peut-être ça qui me dit Yannick Jolin, c'est que oui, on varie, on va dire. On est quasiment obligé de faire de l'humour à la fin, parce que de toute façon, personne de nous sortira d'ici vivant. Et donc, une fois que ce constat-là est fait, bon, on profite quand même des moments qu'on a. Oui.
Alors, ces voix plus guitare, évidemment, Dick Hanegaard, on l'a entendu à l'instant. Donc, ça fait de vous quelqu'un de pas tout à fait seul pour cet enregistrement. Celle-là, c'est une... Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois une Gibson J45 Sunburst de 1940, modèle jumbo, de grande taille, donc. Oui. Pourquoi avoir choisi celle-là? Comment sonne-t-elle, hein? Qu'est-ce qu'elle vous dit, celle-là?
Bah, parce que, justement, les graves sont bien ancrés dans le sol et que les aigus sont superbement mélodiques et donc m'évoquent le ciel. Et donc, c'est une guitare à un spectre large. Voilà, c'est une espèce d'établi quand même assez somptueux. En fait, c'était les guitares qui ont été construites en 1940, donc il n'y a pas de ferraille dedans. Ils n'avaient pas la ferraille parce qu'aux États-Unis, la ferraille, elle servait à faire les canons. Et donc c'est une des rares guitares qui est pur bois, il n'y a pas de truss road comme on dit. Donc c'est une guitare qui est vraiment bon en bois d'arbre seulement et prête à sonner d'une façon. C'est la même guitare qu'Odetta, une chanteuse américaine que j'adore. En gros, elle a des fesses, c'est une guitare assez ample, oui. C'est une femme généreuse.
Alors, si elle est généreuse, j'imagine qu'elle s'accorde aussi à votre voix et inversement. Composer tout un album guitare-voix, qu'est-ce que ça implique? Alors, bon, j'imagine pour le texte, mais on va y revenir au texte, mais surtout pour la voix. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de variations possibles, hein, que d'être seul avec sa guitare?
Je comprends pas tout à fait la question. Elle a une petite guitare, en effet, ça, ma voix... Oui, descend en effet possiblement aussi grave que la guitare. Les aigus, ils montent un peu plus haut que le maximum de la hauteur de la guitare. Mais, comment dire, c'est une espèce de grain, c'est un peu ombré, il y a une couleur, ces guitares vintage, ces guitares de lutherie ont une âme. Et d'ailleurs, c'est pas facile à contenir dans une pièce, et je dis bien, j'ai mis longtemps pour trouver le son et aussi pour trouver l'amplitude. Les gens croient que seul, c'est plus facile. Non. Un enregistrement seul implique qu'il faut atténuer les résonances, qu'il faut maîtriser l'espèce de souffle, l'espèce de hors-phase qu'il y a autour d'une guitare. C'est un être vivant, une guitare, donc il fallait déjà l'immobiliser et pas bouger, et en même temps avec une souris entre les dents déclencher l'ordinateur. Enfin, c'est toute une gymnastique qui est quand même assez. J'étais épuisé à la sortie de ça.
C'est un enregistrement physique.
Oui, c'est très physique. Déjà à chanter et à jouer, bon, c'est first take, good take, enfin one take. Il y a une seule prise, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de raccord, parce que justement, quand on fait une autre version, hop, il y a une différence de couleur, une rupture d'ambiance. Donc oui, ça, c'est une concentration, je dis bien, pour que ça part, enfin que ça continue à avoir du swing, à paraître naturel, et quand même tout bien placé, articulé, on peut pas reprendre, quoi, on peut pas se tromper. J'ai fait ça d'un trait, oui.
Mais vous dites d'ailleurs que le blues, en tout cas chanter le blues, vous vient plus naturellement aujourd'hui que par le passé.
Oui, mais c'est aussi parce que justement, j'habite à côté de la montagne, donc je peux vociférer, je peux le chant a une résonance dans l'espace. Donc souvent je pousse des cris, je me fais la voix dehors dans un pré.
Quelle chance vous avez.
Ah oui. et personne me gêne, je gêne personne. Donc en effet, avec l'âge, d'une part, on est peut-être un peu plus impudique, on va plus loin avec la voix, on n'a pas peur de qui de la souffrance, qui de la jouissance dans cette même voie. Oui, on peut avec l'âge plus facilement aller dans les extrêmes. Paradoxalement, je suis moins limité en effet aujourd'hui. En plus, je vais pas vous raconter, mais j'ai complètement jugulé. Je n'ai aucun rhume ni rien. Ma voix, elle est encore en bon état. Et je pense que j'ai gagné en, vous savez, le fado, le blues, Jacques Brel, c'est pas des jeunes, hein. C'est des musiques de gens qui ont enrichi leur voix de l'orage et de résonance qu'on exploite mieux avec l'âge, oui.
Puisqu'on parlait de guitare à l'instant, Dick Hanegaard, à quel moment est-ce qu'elle intervient dans la composition de la chanson, sachant que pour vous, la chanson doit exister dans la tête avant d'être écrite?
Ouais, dans la tête sonore, dans la cage de résonance de la tête et du rêve, c'est-à-dire une imbrication de mots, il faut qu'elle résiste déjà au sommeil. Donc en effet, souvent je m'endors avec deux trois mots mal imbriqués, et dans la nuit ou le matin, elles se sont mises en place. Il y a juste un mot qui a été remplacé, et donc c'est le côté sonore. Une chanson s'écrit à la fin. J'ai écrit le livret après l'enregistrement parce que même pendant, j'ai encore trouvé des mots qui sonnaient mieux. Donc le son. Pour ça, il faut du silence, déjà. Il faut pas de dictionnaire, ni de rime, ni de rien, parce que c'est pas là-dedans qu'on trouve les sons. Hein, et donc, je rêve les paroles avant de les chanter, et je les écris après les avoir chantées.
Donc ça veut dire que d'écrire, c'est un travail de mémoire, pour vous?
C'est un travail de mémoire, et j'insiste un peu sur le son, quand même. Hein. Je veux dire... C'est une alchimie, c'est une horlogerie. Il n'y a aucun manuel là-dessus, il n'y a aucune formation, personne ne peut vous apprendre ça. On se l'apprend soi-même, chaque fois on trouve un mot qui, elle dit justement ce que je veux dire, sauf qu'elle ne sonne pas, elle coince, il y a des paroles qui sont tellement vraies, mais qui, je veux dire, c'est le son du mot qui prime quasiment devant la signification.
Alors, rien de plus vrai que ce qu'on va écouter tout de suite.
Je suis né à La Haye en 1952. Et voilà que je suis né. Mon père est une colombe et ma mère un pigeon bleu. Ils se sont beaucoup aimés. Je suis tombé du nid sans vraiment pouvoir voler. Ne suis pas trop mal tombé. J'ai même bien rebondi. Rebondi. Je suis aujourd'hui. J'ai chanté dans la rue. J'y rechante quelquefois. Tant que l'on veut m'écouter. J'ai connu célébrité. Une ou deux ou bien trois fois. Ça n'a pas longtemps duré. Trop vite passé, comme une folle fusée. Et voilà le temps passé. Je suis né à La Haye en 1952. Et voilà où je suis né.
Je suis né à La Haye en 1952 et voilà que je suis né, l'un des titres hein, de l'album Seul que vous venez de signer Dick Annegarn. Si votre père est une colombe et votre mère un pigeon bleu, qu'est-ce que ça fait de vous?
Un oiseau bariolé. Je sais pas, je crois qu'en tombant, oui, il n'y a personne qui tombe pareil. Et donc, c'est quand même, on est l'animal qui reste le plus longtemps dans notre nid. Hein, 20 ans de sa vie, ça fait à peu près un tiers de sa vie. Un oiseau, au bout de 15 jours, il commence par tomber. Et dans sa chute, oui, il trouve, il rebondit, oui, il trouve une allure. Évidemment, c'est aussi mécanique, c'est biologique. Mais oui, c'est dans la chute que l'oiseau devient bizarre.
Être né à La Haye, hein, commencer par ça. Et je rappelle donc cette chanson-là en particulier, hein, elle est dans vos tiroirs ou dans votre tête, enfin je ne sais, ou dans vos nuits, je ne sais pas, depuis longtemps. Commencer par là, hein, par cette phrase-là, par ce vers-là, être né à La Haye, c'est dire quoi? C'est dire que tout part de là. Qu'est-ce qu'il reste de ça, de ce « je suis né à La Haye » en 1952, aujourd'hui?
Pas grand-chose, en fait. Je veux dire, il y avait un Français, il disait « en Hollande, on se met sur un pays, sur une chaise, on voit tout le pays ». C'est plat, c'est quand même pas très coloré. Bon, le ciel est superbe, mais les Pays-Bas eux-mêmes, oui, ils sont bien bas. Donc d'une part, c'est quand même rare que je fasse de l'art autobiographique. Je me raconte ou me la raconte rarement. J'aime bien parler des autres. Et donc, je est un autre, comme dirait Rimbaud. Je veux dire, j'ai quitté La Haye, j'avais 6 ans, et j'étais à Bruxelles. Bruxelles m'a un peu, comment dire, identifié, mais je pense que, oui, je suis quelqu'un d'autre maintenant, que heureusement, moi, je revendique, même à mon public, je l'exige, le droit de progresser. Et c'est pour ça que j'ai tardé je tarde de temps en temps, je parle un tout petit peu de moi-même, mais c'est pas par pudeur, c'est parce que je pense qu'il y a plus de dimensions dans les rencontres, dans les pays, dans les voyages, que dans mon voyage intérieur, suffit pas.
Vous dites hein, que qu'écrire une chanson, au fond, c'est une sorte de d'exercice de mémoire. Et à propos de mémoire, vous avez créé une verbothèque. Alors c'est dommage, on n'aura pas assez de temps. Il faudrait une heure de plus pour pouvoir parler de ce projet-là. Il y a quelques années, qui vient prolonger donc le festival du Verbe. Vous êtes aussi à l'origine de celui-là, puis de l'association Les Amis du Verbe, qui rassemble la verbothèque. Elle rassemble des centaines de livres sur la littérature orale et puis collecte des chansons. Pourquoi choisir cette forme-là, la forme de la chanson, plutôt que des récits, plutôt que des témoignages, plutôt que des contes, comme on va en parler avec Yannick Jolin? Choisir les chansons, c'était choisir quoi pour vous?
La rime et la métrique permettent à un texte de ne pas être oublié. Je veux dire, c'est la littérature du pauvre, vous avez dit dans votre introduction, oralitude, ce qui est un nouveau mot que nous préférons, oraliture. Ça fait 180 000 ans qu'on raconte les épopées, les textes religieux. Tout ça a été stylé pour que justement, de façon sonore, des gens illettrés puissent le reproduire. Et la chanson, c'est pareil. C'est la mémorisation est facilitée par le fait qu'il y ait de la musique dans les paroles. Et même des rimes et les alexandrins ou les limériques ou autres, je veux dire, il y a plein de figures de style qui permettent et même de dire bonjour dans les pays arabes, c'est un rituel. On périphériquement s'approche de celui à qui on parle en évoquant tous les autres qui sont autour. Et dans les textes bibliques ou autres, il y a plein de trucs pour pouvoir mémoriser la parole. Le récit Yannick Jolin et nous tous, nous parlons avec un peu de style, mais sans rythme. Hein. Et donc le conte libre, ça nous intéresse aussi. Mais la chanson, oui, tout le monde a une chanson dans sa tête de sa jeunesse ou de nombreuses fois où on prend son bain, on chante des choses qui nous restent dans la tête. Donc pour que ça reste dans la tête, il faut qu'il y ait des accroches, il faut qu'il y ait de la rime et de la métrique. Donc la chanson est la meilleure porteuse. Et en plus, la chanson souvent trimballe quand même des horreurs. Je veux dire, on est beaucoup plus excessif, c'est un peu comme la télé. Il y a des meurtres qu'on verra jamais dans sa vie. Oui, dans les chansons aussi, on a des histoires. Et ça nous permet de l'oraliture, du moins, c'est la somme des récits, avec de préférence quand même un peu de style. Quoi. Le verbe, c'est pas la gerbe, c'est quand même un plat cuisiné.
Un peu de style. Si la verbothèque passait par chez vous, Yannick Jolin, s'il fallait chanter pour la verbothèque, qu'est-ce que vous choisiriez?
Je choisirais peut-être un ou deux bouts de chansons que j'ai fait moi aussi, mais avec ma langue à moi. Juste pour
qu'il est dans sa verbothèque. Elle veut que tu chantes, la dame, chante.
Elle veut rien du tout, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut.
À l'éclairie d'un chaud matin bien, il ouvre les ailes et te ouais de camp, doré ma jure, courant sur ta pierre, oh mon bête de tes vieilles, ton rêve de tête bien.
Merci beaucoup. C'est pas moi qui l'ai demandé, c'est Dick Hanegarn qui vous l'a demandé. Hein.
Oui, spéciale dédicace, c'est la première fois que je chante une chanson à Dick.
Non, elle n'est pas de moi, c'est en quoi? C'est en patois régional de chez toi ou c'est en yaourt?
Ouais, c'est dans ma langue maternelle, Dick.
Ah, pardon. Vas-y.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Et toujours avec Dick Hanegarn et Yannick Jolin, qui chantent, qui chantaient, et comme un pont entre les deux.
Mm-hmm.
Un petit saut, grand saut plutôt, vers le XIIe siècle et la voix de la soprano Catherine Bott qui interprète un chant de la Trouberitz Béatrice de Dia. On entendrait presque du blues hein. Et comme vous, Yannick Jolin, elle parle d'amour et comme vous, ça n'est pas bien simple. On est plutôt là vers Montélimar et la langue d'oc, alors que c'est plutôt côté Vendée qu'on va se diriger, côté Vendée et Poitevin sans tonger. À quel régime linguistique appartient d'ailleurs ce parlange qu'on entendait tout à l'heure dans cette petite chanson qui porte, qui irrigue votre langue et vos spectacles, Yannick Jolin?
Mais aujourd'hui, on est catalogué en langue d'oïl, c'est vrai qu'on est plus proche, mais au XIIe siècle, on parlait occitan, on parlait limousin ici, puisque un des premiers troubadours, c'est Guillaume VII du Poitou, qui était d'ailleurs Guillaume IX d'Aquitaine, comme à l'époque, déjà, il n'y avait pas la même comptabilité.
Ouais.
Et Aliénor d'Aquitaine, sa première langue, c'était le Limousin, bien sûr, qui était sa petite fille. Donc on parlait en occitan, donc il y a plein de traits occitans chez nous, beaucoup.
Alors c'est à peu près, alors vous me corrigez si je me trompe, mais c'est cette langue-là, c'est à peu près entre Noirmoutier et le sud de la Vienne, mais j'imagine que ça n'est pas aussi simple que ça. Et vous la décrivez, Yannick Jolin, comme une langue plus ouverte que celle des voisins occitans. Comment est-ce que vous la décririez, cette langue hein? Cette langue que vous dites davantage prête à l'export que l'occitan. À quoi ça tient?
Nous, on a un curseur. Hein, les savants disent le bilinguisme dialectal. C'est-à-dire que nous, on peut mettre notre curseur plus ou moins akash, plus ou moins épais, suivant l'interlocuteur qu'on a en face. Puisque comme elle est proche de l'oïl, on peut juste avoir une langue parsemée de vocabulaire. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui juste émaillent leur discours de quelques mots en poitevin, quoi. Donc c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit que je faisais du patois pour l'export. J'ai tout le temps mis de la langue dans mes spectacles et pourtant, ils étaient compréhensibles par tout le monde.
Alors on va écouter ça tout de suite.
Tout coller. Alors là, mais tout coller ça. Mais qu'est-ce que c'est? Tokolé. On a l'impression d'une langue africaine ou une langue totalement ailleurs. Mais non, on veut dire ça. Qu'est-ce que c'est, Tokolé? C'est joli. On est râpeux, on est rassé, on est ramassé, on est rapiloté. Ils trouvent qu'on est intéressant. Pour les faciles à retenir, Tokolé, ça? Alors, on a nos variantes. On peut dire qu'est Tokolé. Mais Tokolé? Oh, ben dis donc. Ben, tu veux jouer petit drôle, là? Ben, Tokolé, là, dans la main? Parce qu'après, faut prendre nos exemples. Il faut faire de l'application très rapide. Si on veut se rappeler d'une affaire, on est toujours pareil. La mémoire, elle existe que quand tu utilises rapidement les choses que tu as apprises. Donc là, exercice de base pour vous, rapidement, mettez-vous le tocolé en tête pour aller chez vos voisines, pour aller voir, oh, ben, tocolé ça, on se prend un géranium? Oh, ben, tocolé ça, et tu nouvelle auto? Oh, ben, tocolé ça, qu'on a sur Facebook, là? Oh, bête une vidéo, ça applaudit que nos affaires, que nos montries. Hein, Tokolé? Puis c'est ça?
Bah, c'est ça. On est facile à retenir, Yannick Jolin, dites-vous. C'est un extrait hein, des courtes vidéos que vous diffusez sur YouTube. Un mot, une expression, par court film. Il s'agit de choisir des mots qui, comme vous le disiez tout à l'heure, au fond, hein, peuvent trouver assez facilement leur place dans le français, donc peuvent s'exporter, et à entendre, il y a une sorte de malice dans la langue. Alors, il y a la vôtre, bien sûr, mais pas seulement. Est-ce qu'on pourrait parler d'une malice propre à cette langue-là, ou quelque chose qui aurait à faire avec ces langues-là, de manière générale? Ce sont des langues qui sont faites pour ça aussi, qui cultivent ça, le plaisir et la malice de son usage?
Quand je parle de sa survie à cette langue-là, je me dis que la malice, et sans, il y est sans doute pour quelque chose, parce qu'elle n'a aucune utilité. C'est une langue inutile aujourd'hui. Et donc, si elle existe, c'est parce qu'elle rit dans le ventre. Elle donne du plaisir à la fois à Chola qui la parle et puis à Chola qui l'entend. Parce que ces langues-là, elles ont une manière de décaler le réel. Je dis souvent ça, que en français, les mots, ils sont fatigués d'avoir été tellement usés, manipulés. En plus, on dit les mêmes mots, mais vous voyez bien aujourd'hui encore plus à quel point les mêmes mots peuvent être perçus comme différents par pas mal de gens. Au moins, avec les mots de ma langue, ça décale le réel, ça oblige les gens à se faire de nouvelles images en tête.
Alors vous parlez, Yannick Jolin, de plaisir aujourd'hui et puis de langue à exporter. Si on revient un tout petit peu en arrière, ou même carrément en arrière, en ce qui vous concerne, il y aura d'abord eu les années militantes, ou en tout cas d'un certain militantisme dans les années 70, hein, grande époque de la défense des cultures populaires et des langues minoritaires. Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur ces années-là, sur les débats qu'elles portaient, sur la façon dont elles les portaient, sur la façon dont vous-même les portiez?
On était dans une époque effectivement militante qui était absolument nécessaire, puisqu'à cette époque-là, moi je faisais partie de tout un mouvement où on allait faire l'inventaire de cette culture populaire, donc on allait chez les anciens, on allait enregistrer des choses qui seraient tombées dans l'oubli si on ne l'avait pas fait. Par contre, après, dans le discours militant, il y avait une espèce de volonté presque de pureté, d'authenticité, c'est-à-dire qu'on utilisait les mêmes outils nationalistes que tous les nationalistes du monde. C'est toujours un petit peu embêtant, c'est toujours ce qui m'embête encore aujourd'hui pour certains régionalismes, c'est que oui, on utilise les mêmes outils guerriers, belliqueux. Voilà. Mais ça a été absolument nécessaire, absolument fondamental. C'était fait aussi pour redonner de la fierté, c'était fait pour redonner de la densité à des choses qui avaient été diluées dans tout un appareil, par exemple, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'instruction. C'est-à-dire, on avait tellement persuadé les gens que leur culture n'avait pas de valeur, qu'ils n'avaient d'ailleurs pas de valeur, que leur langue n'avait pas de valeur. On a dit qu'il y avait une hiérarchie des mots. Il y avait des mots qui étaient plus importants et plus beaux que d'autres. Et surtout, qui pouvaient servir à détenir une certaine forme de pouvoir.
Alors justement, dans Ma langue maternelle va mourir, j'ai du mal à vous parler d'amour, qui est donc l'un des spectacles qui est en cours de tournée, qui est un petit peu suspendu là, mais qui devrait reprendre très vite. Vous évoquez l'importance du livre Par les croquants de Claude Duneton. Qu'est-ce que ce petit livre-là, qui était un livre manifeste de ces époques-là, qui était, pour faire très court, qui militait contre la langue française, mais de façon extrêmement joyeuse, va poser ou dénouer pour vous?
Il m'a autorisé, moi, quasiment à utiliser ma langue en me déculpabilisant, parce que je me disais, ben, finalement, c'est ringard, c'est une langue du passé, etc. Et quand je me suis rendu compte à quel point, moi, à l'époque, j'avais pas conscience de l'imposition d'un Français qui avait totalement éradiqué, empêché les autres langues, et surtout, finalement, la transmission de tout un savoir. Parce qu'en arrêtant une langue, on arrête aussi la transmission de toute la culture qui va avec cette langue. C'est pas que des mots, une langue. Et la poésie, le regard sur le monde, cette espèce de côté de Travial. Il y avait des gens, moi, quand j'ai collecté des histoires et des choses chez les gens, il y avait des gens sans éducation officielle qui portaient des mots, des regards sur leur environnement, sur leur vie, qui étaient formidables. Moi, qui me bouleversais. Et quand je suis monté sur scène, moi, à 25 ans, je suis monté au nom de ces gens-là. J'aurais jamais pu monter sur scène en mon nom propre. Mais c'était pour cette voix qui était dans les profondeurs, dans les rigoles, dans les charaos, dans les parailles de mon pays. Moi, il y avait envie que le parlange-là puisse se faire entendre, leurs paroles aussi.
Quand vous dites au nom de ces gens-là, alors c'est vrai que ça aura duré un certain temps, c'est passé par le conte, évidemment, sur scène, et puis petit à petit, vous avez glissé un peu vers le one-man show, vous avez commencé à dire « je », mais ça n'est pas si lointain, le moment où vous allez prendre la parole en votre nom à vous. Est-ce que ça veut dire que c'est une mission qui, par moment, aura été peut-être lourde ou encombrante, ou au moins décourageante, que de parler au nom des autres ?
Oui, il y a parfois, j'ai eu cette sensation à la fois de porter un fardeau et de parfois de porter un trésor. Quoi. Bien sûr que j'ai quand même utilisé mon héritage pour en faire un objet artistique, mais parfois je me suis dit que j'avais exagéré. et en même temps, je trouve que voilà. C'est en creusant ce sillon, c'est en creusant cette chose-là très intime que moi je pouvais justement, en allant fouiller les ressorts de la honte, les ressorts d'une transmission qui ne s'est pas faite, j'avais besoin de faire ça parce que en parlant de cette intimité-là, je retrouvais le monde, je retrouvais quelque chose d'universel. Ce sont les mêmes fondements qu'on trouve partout à l'œuvre dans le monde.
Est-ce que finalement, à vous entendre, tout votre parcours pourrait tenir ou s'entendre dans ce fameux « i » patoisant, ce « i » du parlange, qui est un « i » qu'on utilise pour dire « je » et en même temps pour dire « nous » ?
Oh bah, ça fait partie de mes lubies.
Ben oui, c'est bien pour ça que je vous le dis.
Oui, parce que ce « i » est magnifique. Je trouve qu'en plus, aujourd'hui... ce « i » très droit, comme ça, qui remplace le « je » et le « nous ». Et ce « i » très simple et très franc du collier, et qui raconte à la fois la nécessité de redevenir des individus, ce qu'il a fallu faire, parce que moi, c'est vrai que je viens d'une civilisation rurale, paysanne, où parfois le « je » se perdait dans le collectif, quoi. Le « i » individuel n'existait pas beaucoup. Et en même temps, aujourd'hui, on a besoin de retrouver une solidarité et des nouvelles communautés. Il faudra bien que cet individu que nous sommes devenus, il réapprenne à la nécessité des autres. Et je trouve que dans ma langue, il fait, il faisons, il pense, il pensons, il chante, il chantons. Le fait que ce soit le verbe qui détermine si c'est moi ou si c'est le collectif qui fait, on voit bien que c'est le résultat qui compte. Quoi. Qui a fait ça ?
Alors dans le spectacle dont je parlais tout à l'heure, vous revenez sur les différentes phases, les différentes étapes de l'éradication des langues minoritaires pour construire la langue française, coupée de la langue maternelle, ce qui a été un peu votre cas, puisque au fond vous parliez ce patois-là avant jusqu'à l'école. Coupée de la langue maternelle, c'est couper, dites-vous, ce qui a à faire avec les émotions. Et puisqu'on parle d'émotions, on écoute un extrait d'un autre spectacle.
Émija, aimez pas baille, aimez moins que maille, comme si mon cœur a tes arts. Comme si le cheval au mal dercé qui me sert de corps, hébridé, vernussé, savait de sa faire de ma qui se ja, tout qui ouait, tout qui crée, tout qui va crie, qui fait que mon cure d'alte, il buffe sur la pouvre, il buffe sur la vraise, il buffe sur la fiamme d'un cure en abernote, les matroilles les mots, les ampoules les mots, s'arrêt comme dos à cri, épouverté comme de poules courais, battant dos al, battant dans la gueule pour dire ce qu'il peut jamais dire, il t'aime fort mais il te fait de tort, il t'aime fort mais il te poque, il te mâche, il te bure, il te fout jamais, il te poque, il te mâche, il te bure, il te fout jamais, il te buffe, il te dit qu'il t'aime fort, mais tout mon corps te tord.
Vous avez raison, on comprend un petit peu quand même. C'est un extrait de Causer d'amour. Comment parler d'amour dans une autre langue que la sienne, ou en tout cas que sa langue maternelle? Comment parler d'amour quand on a coupé la langue qui abrite les émotions? Ce sont des questions que vous mettez sur scène pour ce spectacle-là. Celle-là, mais aussi la façon dont le parlange, la langue elle-même, parle d'amour ou peine à en parler. Que fait le parlange, donc cette langue qui est votre langue maternelle, que fait le parlange de l'amour?
C'est une vraie question, parce que l'amour est souvent partout, mais il est peu dit. Comme je dis souvent, l'amour ne se dit pas, les mains ne se caressent pas, il rampe dans l'obscurité, il dort sur la paille. C'est vrai que tout ce qui était... l'évocation extérieure, les signes extérieurs d'amour étaient peu présents dans mon milieu. Et pourtant, il y avait un amour qui était là, partout, mais il fallait savoir qu'il était en suspension dans l'atmosphère.
Est-ce que ça veut dire que c'est une langue qui porte, je ne sais pas, le non-dit comme une sorte de fondement? Et enfin, je rappelle que la vôtre de langue se parlait dans un milieu paysan, catholique et vendéen, ça fait... beaucoup de marqueurs côté non-dit, je suppose.
Absolument, oui. Je raconte ça vraiment dans Causer d'amour, à quel point dans cette société-là où il y avait des paysans à la veillée, Et ça, et il racontait que des histoires abominables, d'histoires de fesses, d'histoires de tromperies, de méchanceté. Et pourtant, on ne vivait que pour de l'amour de Dieu.
Travailler là-dessus, justement, sur ces questions-là, sur ces rapports entre la parole de l'amour dans la langue maternelle et puis la parole de l'amour dans cette langue qui a été coupée, qui est le français. Travailler là-dessus, est-ce que ça a pu dénouer des choses chez vous? Alors, sans faire une psychanalyse de bazar en une minute, mais néanmoins, il y avait quelque chose de cet ordre-là?
Oui, bien sûr que moi, en allant fouiller ces choses-là, j'ai aucune nostalgie du bon vieux temps. Hein. Il faut bien toujours, quand vous savez, en France, avec notre rapport de Paris-Province, il y a toujours eu une espèce de suspicion, de réaction chez les gens qui s'emparaient de leur richesse différente pour parler du monde, quoi. Et moi, en allant faire ça, vous avez bien compris que je n'ai aucune envie de bon vieux temps, de nostalgie. Au contraire, c'est aller faire fouiller au scalpel là-dedans. Et bien sûr que ça m'a permis, moi, de dénouer des choses pour moi, mais je pense aussi pour les autres. Je pense aussi à mes enfants, parce qu'en réglant... en déposant ces paquets déposés par mes ancêtres, j'espère que je simplifierai la vie de ceux qui me suivent.
Quels sont vos rapports, Yannick Jolin, aujourd'hui avec la langue française, hein? Est-ce qu'il reste quelque chose de cette affaire de domination culturelle, hein, dans votre pratique même de la langue?
Oui, sans doute, parce que j'aime infiniment cette langue. Mais je vois bien que c'est une langue mentale, c'est ma langue de pensée, et parfois elle est un peu sèche, elle est un peu raide, elle me rend presque agressif. Alors encore en plus quand je me trouve dans des endroits où les situations de domination ça renforce encore ça, et j'utilise la langue française encore plus comme une espèce de chose un peu pincée, coincée. Et à limite méchante.
Tiken Egarn, vous comprenez ça? Alors, je m'adresse à quelqu'un dont le français est la langue d'écriture, hein, depuis le début quasiment, mais qui avait parlé toutes sortes de français, hein, le français de Belgique, le français, alors cette espèce de français européen, un peu hybride, hein, que vous avez pratiqué à l'école européenne quand vous étiez enfant, et j'imagine que c'est une relation qui n'a pas toujours été simple. Cette question de la domination travaille aussi votre pratique du français? Du français de France?
Non, c'est un plaisir d'enfant au départ. On parlait avec des Allemands de l'école européenne, on parlait français par plaisir, un peu par mode aussi, je veux dire. Et je vis ce même plaisir, en effet, ici en Occitanie, les gens parlent plat, enfin, ils me disent des choses que petit à petit, je finis par comprendre. Et donc, ce plaisir de la découverte remplace largement mes problèmes maternels ou identitaires n'existent quasiment plus, n'ont jamais trop existé, puisque je parle 4-5 langues. Là, j'ai appris un peu berbère. Voilà. Mais j'écoute.
Oui, on a un tout petit problème de son. Vous rêvez en quelle langue, dit Tiken Egarn?
Bonne question. Bah, vous pouvez dire aussi, je fais en quelle langue je fais l'amour.
Vous pouvez y répondre sans que je vous le demande, mais bien sûr.
D'abord, c'est un peu en baronguin où on fait des bruits qui ne sont pas vraiment des mots, qui sont des mots en formation ou en déconstruction. D'ailleurs, les rêves sont souvent quand même irrationnels, voire bestiales. Et donc, je rêve, je parle, je réfléchis, en français.
En français.
Ma langue maternelle est loin, je la pratique très peu. Mais il y avait un Portugais, il venait ici, il dit « je suis plus français que vous » puisque j'ai choisi de venir là. Donc j'ai choisi de venir ici en France et donc maintenant je suis français.
Yannick Jolin, vous rêvez en quelle langue?
Je rêve en français beaucoup. De temps en temps. De temps en temps, un poids de vin dans ma langue. De temps en temps.
Que j'allais dire, vous rêvez sec alors, coincé, comme vous dites.
Oui, mais je suis plus en plus coincé. Ça, c'est une évidence.
Qu'est-ce qu'il faudrait défendre aujourd'hui, Yannick Jolin? Ou comment faudrait-il la défendre, cette langue?
Je ne suis pas en position de défense. Je suis plutôt en position de proposer des choses concrètes et positives. Quoi. En me disant, je n'ai pas envie de combattre des causes perdues. Même si dans ces langues, par exemple, le basque, par exemple, est une des seules langues minoritaires qui reprend du poil de la bête vraiment... Je pense que donc il y a eu des démarches politiques qui ont servi à quelque chose. Moi, dans la mienne, non, mais j'essaie de transmettre le maximum de choses d'une manière joyeuse, et parce que je trouve que c'est malgré tout ces langues-là, c'est notre diversité, c'est notre le patrimoine immatériel, c'est une manière de c'est à chaque fois un filtre pour regarder le monde. Je dis souvent une langue, c'est une passoire à nouilles qu'on se met sur les yeux avec des trous pour au même endroit. Et dit que si tu parles cinq langues, tu sais bien ce que je veux dire. On ne dit pas les mêmes choses, on ne voit pas le monde de la même manière quand on parle une autre langue, de toute façon.
Donc on en revient au fond à ce que c'est que le conteur et puis à la responsabilité du conteur. Vous parlez de joie, mais la joie n'est pas en contradiction avec le politique. Il y a une responsabilité politique au conteur?
Ah oui, bien sûr. Ah oui, parce que le conteur, s'il ne fait que raconter des histoires, je pense qu'il ne fait pas son travail. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un être subversif aujourd'hui dans la société, ça devrait être le conteur, complètement. Parce que il est plus fort que le one-man show, normalement. Mais on ne s'en rend pas compte encore. Et on s'en rendra compte un jour, dans les générations qui vont venir, j'en suis sûr. Parce qu'il a cette capacité à la fois de parler, d'utiliser les vieux archétypes, les vieux démons, les vieux dragons qu'on porte dans nos entrailles, et en même temps de parler du monde qui nous entoure, du social, non, c'est un art complet. Derrière, à côté de l'histoire, on peut faire la digression, le commentaire. On est le bouffon. Il y a quelque chose d'absolument extraordinairement puissant dans la parole du conteur aujourd'hui.
Yannick Jolin, Dick Annegarn, c'est la fin de cette émission. Déjà, merci à tous les deux. Vous pouvez réécouter et partager cette émission sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. Aujourd'hui, à la technique, Jacques Azubert, à la préparation, Thierry Beauchamp, et à la réalisation, François Connac. On se retrouve vendredi prochain, même heure, même endroit. Bon après-midi à toutes et à tous.